Merci d'écouter RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite le journal, bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Human Rights Watch accuse Israël de crimes contre l'humanité. L'ONG vise notamment les opérations israéliennes à Gaza. Alors que le blocus du nord de l'enclave se poursuit, de jeunes Jordaniens ont entamé une grève de la faim pour exiger l'entrée d'aide humanitaire.
Marco Rubio, nouveau visage de l'Amérique à l'international.
Le sénateur de Floride, officiellement nommé secrétaire d'État par le président élu Donald Trump, une figure ouvertement hostile à la Chine, connue pour ses positions favorables à Taïwan. Au Mali, le PDG de l'entreprise Resolute évite la prison. Un accord aurait été trouvé entre la compagnie aurifère australienne et Bamako. Le dirigeant et deux de ses collaborateurs sont au centre d'un litige financier. Et puis du rap à retrouver en fin d'édition. Deuxième EP pour le francilien Sydney. Un album en forme d'autobiographie aux sonorités 13 années 80.
RFI Matin.
Israël est responsable de crimes contre l'humanité à Gaza.
Accusation formulée aujourd'hui dans un rapport de Human Rights Watch. L'ONG pointe particulièrement le déplacement forcé et massif de la population gazaouie depuis près d'un an. Rapport qui fait écho au mandat d'arrêt émis par le procureur de la Cour pénale internationale il y a 6 mois contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, notamment pour crimes contre l'humanité. C'est dans ce contexte que de jeunes Jordaniens ont entamé il y a 10 jours une grève de la faim. Ils exigent l'entrée d'aide humanitaire et la fin des déplacements forcés de population dans le nord de Gaza, toujours sous blocus, à Amman, Mohamed et Rami.
Les grévistes, au nombre de 50 Jordaniens, ont affirmé leur intention de poursuivre la grève de la faim. Malgré la dégradation de l'état de santé de certains participants, ils considèrent cette démarche comme essentielle, comme l'exprime Fawaz Zalali, l'un des jeunes grévistes.
Nous avons participé à cette campagne car nous pensons que nous avons de nombreux moyens de faire pression sur notre gouvernement pour qu'il agisse contre l'occupation, comme l'annulation des accords commerciaux ou même l'autorisation de l'entrée des camions dans la bande de Gaza.
Parmi les autres jeunes, Lujain Elfar a demandé au gouvernement jordanien d'envoyer des aides humanitaires à Gaza malgré tous les blocages menés par Israël. Ils ont également appelé davantage de Jordaniens à rejoindre leur grève pour intensifier la pression internationale.
Nous continuerons, Inch'Allah, notre grève de la faim, même si cela devient un peu difficile, et ce, jusqu'à ce que toutes nos demandes soient satisfaites.
La grève a débuté le vendredi 1er novembre, lorsque de jeunes hommes et femmes se sont rassemblés près de l'ambassade américaine à Amman, lors d'une marche, annonçant le lancement de leur grève de la faim. Ils ont participé à une manifestation arborant des slogans appelant à la liberté pour Gaza et ont prévu de se retrouver devant le siège de l'ONU à Amman, dimanche 17 novembre prochain. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Et les combats se sont poursuivis hier au Liban. Échange de frappes entre Israël et le Hezbollah. Au moins 8 civils ont été tués dans la banlieue de Beyrouth, tandis qu'une 60aine d'engins et missiles ont été tirés par la milice chiite en direction d'Israël. 6 soldats israéliens ont perdu la vie dans des combats au sud du pays du Cèdre, portant à 47 le nombre total de militaires tués depuis le début de l'offensive au Liban. Le conflit au Proche-Orient qui place Paris et le Stade de France en alerte. L'équipe de France de football affronte à 20h45 aujourd'hui Israël pour le compte de la Ligue des Nations. Plus de 4000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale pour éviter des débordements une semaine après des heurts aux Pays-Bas en marge du match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Une rencontre qui se tient également 24 heures après un gala organisé par des proches de l'extrême droite israélienne à Paris. Une soirée qui a mis le feu aux poudres et contre laquelle ont manifesté des milliers de personnes hier soir. Reportage Amélie Beaucourt.
L'annonce du gala de soutien à Israël, maintenu par la préfecture de Paris, s'est ajoutée à la longue liste des choses qui mettent Aïcha en colère depuis un an de bombardement sur Gaza.
Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, à 82 ans, de venir moi manifester à mon âge? Je serais bien dans mon lit à regarder la télévision et je viens ici pour protester contre ce gouvernement. On vit un génocide, on voit, et on ne peut rien faire à part venir manifester. C'est honteux. Et moi, monsieur Macron, si vous m'écoutez, j'ai voté pour vous et là, vous nous avez bien eu. Et je regrette d'avoir voté pour vous.
Une goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli, c'est le sentiment de Benjamin Ange et Frédéric du collectif juif Tzedek, qui manifestent aussi depuis le 7 octobre 2023.
Le gala, plus ce match qui n'est pas annulé, c'est vrai que ça touche beaucoup de personnes, ça prend au cœur, sûrement, parce que on se dit, est-ce que le gouvernement va comprendre les mobilisations, au moins d'arrêter de soutenir cette impunité?
C'est presque de la provocation, en fait. Là, on atteint un niveau de soutien, enfin de complicité vraiment active, quoi. C'est ça qui est hallucinant.
Un nouveau rassemblement aura lieu ce jeudi soir à Saint-Denis, à quelques kilomètres du Stade de France, 3 heures avant le coup d'envoi du match contre Israël.
Et à noter que le président Emmanuel Macron ainsi que ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy ainsi que le Premier ministre Michel Barnier assisteront au match ce soir. Seuls 20 000 spectateurs sont attendus, affluence historiquement basse. Et puis plusieurs arrestations ont eu lieu dans une manifestation pro-palestinienne interdite hier. C'était à Amsterdam. RFI, il est minuit 5 à Washington. L'organigramme de la future administration américaine se précise. Nouvelle valse de nomination hier à l'initiative de Donald Trump. Le président a choisi Tulsi Gabbard pour diriger les renseignements, l'élue hawaïenne notamment connue pour ses positions pro-russes. C'est une figure résolument anti-Pékin qui a été désignée pour diriger la diplomatie américaine. Grand partisan d'Israël, Marco Rubio est également un fervent défenseur de l'aide militaire à Taïwan. Le sénateur de Floride a fait campagne pour punir l'État chinois pour ses actions à Hong Kong et contre la minorité ouïghour. À Pékin, Claire Broderst.
La nomination de Marco Rubio comme secrétaire d'État pourrait marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Rubio est un critique virulent des pratiques commerciales chinoises, en particulier le vol de propriété intellectuelle et les manipulations de marché. Il a proposé des lois pour empêcher les fabricants chinois de contourner les droits de douane américains en passant par des pays tiers comme le Vietnam ou le Mexique afin de protéger les entreprises américaines. Rubio est aussi un fervent défenseur de Taïwan. Son soutien pourrait signifier un renforcement des liens militaires et diplomatiques avec l'île, ce qui risque de provoquer l'irritation de Pékin. Au Sénat, il a notamment appelé à armer l'île en passant par des livraisons directes d'équipements militaires américains plutôt que par la vente d'armes. Sa position s'inscrit dans une stratégie américaine visant à contrer l'influence chinoise, notamment en renforçant les alliances dans la région Indo-Pacifique et en s'opposant au projet des nouvelles routes de la soie que Pékin utilise, selon lui, pour étendre son pouvoir. Enfin, Rubio met en garde contre les alliances croissantes entre la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, qui n'ont qu'un seul objectif, selon lui, affaiblir les États-Unis et leurs alliés. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Et dans ce contexte, les présidents chinois et américains sont attendus au Pérou aujourd'hui. Xi Jinping et Joe Biden doivent s'entretenir en marge du sommet de coopération Asie-Pacifique qui se tient à Lima. La police brésilienne confirme une attaque manquée contre la Cour suprême. Un homme chargé d'explosifs a été retrouvé mort devant le bâtiment situé à Brasilia hier soir. Selon les premiers éléments, il aurait tenté de pénétrer dans le bâtiment sans y parvenir avant de se faire exploser. D'après un document publié par la chaîne Globo News, le suspect se serait présenté comme conseiller municipal en 2020 sous les couleurs de l'ancien président Jair Bolsonaro.
Le Brésil, où sont attendus les dirigeants du G20 lundi prochain.
Sommet en marge duquel pourrait être signé l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, l'alliance régionale des pays sud-américains. Une ratification voulue notamment par l'Allemagne, mais à laquelle s'est fermement opposé le Premier ministre français hier. En visite à Bruxelles, Michel Barnier s'est aligné sur les positions des syndicats agricoles de son pays et notamment sur ceux de la Confédération paysanne. À Bruxelles, Pierre Benazet.
À quelques jours de l'ouverture du G20, les opposants se mobilisent contre cet accord de libre-échange, considéré par certains comme contraire aux normes sociales et environnementales de l'Europe. Le Premier ministre français est venu répéter à Bruxelles l'opposition de la France. Michel Barnier.
Il ne s'agit pas de mettre des rustines ou de compenser, il s'agit de ne pas accepter des mesures qui vont détruire des filières entières de l'économie européenne, notamment de l'agriculture et de l'élevage. Vous ne pouvez pas expliquer que l'Union européenne détruise des pans entiers de l'économie de plusieurs pays. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas justifiable.
À quelques encablures de là, les agriculteurs manifestaient comme promis à l'appel entre autres de la Confédération paysanne, Enrico Somalia, de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation et de l'agriculture.
C'est une concurrence déloyale et en plus de ça, c'est un accord qui n'a aucun sens aussi pour les pays du Mercosur parce que ces aspects sociaux et ces aspects environnementaux ne sont pas considérés contraignants dans l'accord. Ce qui va peut-être augmenter, c'est l'exportation de certains produits qui vont alimenter la destruction de la forêt amazonienne.
L'espoir de cette levée de bouclier est que la signature des accords UE-Mercosur disparaisse du programme des Européens.
Pierre Benazet. Au Mali, un compromis en vue entre le gouvernement et le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali. Depuis vendredi dernier, le dirigeant britannique de la société et deux de ses collaborateurs expatriés sont détenus à la brigade du pôle économique de Bamako. Au centre de l'affaire, un litige financier avec les autorités maliennes. Les derniers développements avec notre correspondant régional, Serge Daniel.
Le président directeur général de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, et ses deux collaborateurs, tous de nationalité britannique, étaient à deux doigts d'être mis sous mandat de dépôt. Leur société a finalement accepté un compromis avec les autorités maliennes. D'après nos informations, ce mercredi, un protocole d'accord était en cours de finalisation pour signature. De sources proches du dossier, selon ce protocole, le Mali recevra rapidement un premier chèque et dans un délai raisonnable un second. Mais c'est après signature du document et un premier versement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que ces cadres de la société minière vont recouvrer la liberté. Accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics, depuis quasiment une semaine, ils sont dans les locaux d'une unité d'enquête de Bamako. Les autorités maliennes leur reprochent notamment des pratiques commerciales non orthodoxes. La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale. Propriétaire de la mine d'or de Siama située dans le sud-ouest du Mali, les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Serge Daniel, Dakar, RFI.
À le Mali, où la très médiatique figure politique et religieuse Issa Kaounjim a été placée sous mandat de dépôt hier, il est accusé d'offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger après des propos qu'il aurait tenus à la télévision contre le gouvernement burkinabé. Une mise en scène selon le principal intéressé qui dénonce un grossier montage.
On termine ce journal en musique avec le rappeur Sydney qui vient de sortir son deuxième EP.
Second opus intitulé Jusqu'ici, dans la lignée d'Orelsan et de Gringe, le francilien, au texte chatoyant, s'interroge sur son parcours, ses échecs, ses réussites. Olivier Roger, elle l'a écouté pour vous.
Enfumé dans mon gamo, je claque des doigts, tout disparaît, j'ai le gant de Thanos. En fit avec Yvick, je déboule jaunais comme les balles de Roland Garros, très bien formé.
Comment se construit un chanteur, un rappeur, un musicien et en filigrane, comment se construit un homme? Voilà ce que dévoile Sydney dans son deuxième mini-album, jusqu'ici un an après avoir sorti Vision. Le francilien venu sur le rap assez tardivement, il a 34 ans, s'est résolu à suivre son penchant musical après avoir côtoyé de longues années durant ses amis Gringe et Orelsan. Si l'on peut juger qu'il partage avec eux la même veine sensible et un spleen lancinant, Sydney s'est aussi façonné l'oreille au rap des années 80. Texte travaillé plume élégante, Sydney a de qui tenir. Son grand-père n'était autre que le génial guitariste et auteur camerounais Francis Bébé. Une généalogie musicale qui effleure parfois consciemment ou non. Sydney évacue au passage des habitudes qu'il juge dépassées, comme sa fascination pour la drill hardcore. Il en a acquis une autre, celle de s'entourer de beatmakers talentueux comme Tigri et sa griffe classieuse.
À chacune de mes fautes, je me dis qu'il n'y a pas mort d'homme. Si tu sautes, je saute. Je veux pas rester dans le Mordor, faut finir sur la côte.
J'ai signé Olivier Roger.
Jusqu'ici de Sydney, notre choix musical du jour. On en reparle juste avant 9h tout à l'heure. C'était le journal de Pierre Boudias. Merci beaucoup. 6h13 à Paris, RFI Matin. Bienvenue au programme. La COP29 continue et hier, les appels des pays pauvres à plus de financement. Lequel et qui pour mettre la main au portefeuille? On en parle tout à l'heure dans Aujourd'hui l'économie. On va aussi évoquer ce matin ces initiatives locales pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, pour reverdir des zones dévorées par les flammes.
On ramasse les graines, on les certifie conformes, on édite un registre pour assurer leur traçabilité. Ensuite, on fait grandir les plantes chez des pépiniéristes et enfin, on les plante dans les zones qui ont été touchées par les incendies.
Extrait de notre reportage international à Palerme, en Sicile, à retrouver à 8h20 tout à l'heure. À Madagascar, ce ne sont pas tant les flammes que les précipitations diluviennes qui inquiètent. C'est la saison des pluies, c'est normal, mais elles pourraient cette année être terribles. Alors les habitants de la capitale se préparent.
Nous sommes certains que l'eau n'entrera plus dans notre maison, car on vient de surélever le plancher d'un mètre. Mais on a toujours peur que l'eau ramollisse les fondations de la maison et qu'elle finisse par s'écrouler.
Reportage à Madagascar ce matin. On va aussi revenir toute la matinée sur l'équipe gouvernementale de Donald Trump qui prend forme et avec elle se dessine la future politique du milliardaire pour son second mandat. Elon Musk fait partie de cette équipe. C'est notre dossier du 8h ce matin. Marco Rubio aussi, c'est confirmé. Il sera le chef de la diplomatie américaine en charge notamment du dossier du Proche-Orient. Dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire manque toujours cruellement avec des conséquences très importantes derrière.
Depuis début octobre et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a permis à aucun commerçant palestinien de faire entrer des marchandises à Gaza. et c'est le citoyen palestinien qui en paye le prix en bout de chaîne. Les prix sont exorbitants, c'est de la folie.
Un sujet à retrouver dans le journal de 7 heures, on va aussi parler de foot. Aujourd'hui, ce match France-Israël sous tension ce soir et RFI Matin également. La presse, le sport, vous avez une partie du programme, on peut commencer. C'est confirmé, Marco Rubio sera bien le chef de la diplomatie américaine une fois Donald Trump investi président des États-Unis. À mesure que les jours passent, sa future équipe se dessine et avec elle les orientations que prendra le deuxième mandat de Donald Trump. L'une de ces orientations, c'est celle qui concerne le climat. Donald Trump, climato-sceptique assumé, compte sortir de l'accord de Paris encore et détruire les politiques environnementales décidées par son prédécesseur. Un démantèlement qui passera forcément par la puissante agence américaine de protection de l'environnement. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Andréane.
Donald Trump a d'ailleurs nommé, dès lundi dernier, donc même pas une semaine après sa victoire à la présidentielle, il a nommé celui qui dirigera l'EPA. Qui est-il ?
Eh bien, il s'agit de Lee Zeldin, c'est un avocat de 44 ans. Il a été élu pour le Parti républicain au Sénat de New York, avant de passer 4 mandats à la Chambre des représentants à Washington. Alors, durant cette carrière d'élu, Lee Zeldin a défendu une zone humide dans sa circonscription de Long Island, pour laquelle il a d'ailleurs obtenu des fonds de la part de l'EPA. Au Congrès, il a aussi rejoint le Conservative Climate Caucus, un groupe d'élus républicains qui reconnaissent l'origine humaine du changement climatique, mais cela ne l'a pas empêché de voter contre le Inflation Reduction Act, la fameuse loi climat de Joe Biden, ou encore contre un meilleur contrôle des émissions de méthane, pour ne donner que quelques exemples. En fait, il n'a voté en faveur des questions environnementales que dans 14% des cas, selon un décompte de la Ligue des électeurs pour la protection de la nature, moins que les démocrates, mais bien plus que ses collègues républicains. Lors de sa campagne infructueuse au poste de gouverneur de New York en 2022, Lee Zeldin a soutenu l'expansion des énergies fossiles et la construction de nouveaux pipelines, mais sa principale qualité qui lui a permis de décrocher la nomination à la tête de l'EPA, eh bien, c'est d'être l'un des plus fidèle soutien de Donald Trump.
Et quelle sera sa mission ?
Eh bien, évidemment, Andréane, c'est Donald Trump qui l'a fixée, bien sûr, et elle peut se résumer en un mot, déréglementation. En gros, détricoter les règles existantes qui protègent la nature et le climat. L'objectif, offrir un nouveau souffle aux énergies fossiles en faisant fi de l'urgence climatique. Lee Zeldin lui-même a annoncé sur le réseau X qu'il allait, je cite, « restaurer la prédominance énergétique des États-Unis ». Sur la chaîne Fox News, il a déclaré lundi.
Au cours des 100 premiers jours, nous allons supprimer les réglementations qui causent des difficultés aux entreprises et les forcent à s'installer à l'étranger. L'aile gauche de ce pays a usé de son pouvoir pour mettre en place des réglementations qui finissent par pousser les entreprises dans la mauvaise direction.
On l'entend hein, quand Lee Zeldin parle de l'aile gauche des États-Unis. Pour les Trumpistes, la lutte contre le changement climatique est une affaire d'idéologie politique.
Et pourtant, à l'instar de Donald Trump, le nouveau chef de l'Agence pour la protection de l'environnement a promis un air et de l'eau propre pour tous les Américains.
Tout simplement parce que c'est un sujet sensible, Andréane. Après de nombreux scandales de pollution de l'air et de l'eau qui ont éclaté ces dernières décennies aux États-Unis et qui ont surtout touché, il faut le dire, des Américains défavorisés, dont bon nombre ont voté pour Donald Trump la semaine dernière. Alors, la nomination de Lee Zeldin doit encore être validé par le Sénat, où les Républicains ont obtenu une confortable majorité de 53 sur son siège.
Merci Stéphanie Schuller. RFI dans 10 minutes, un peu plus, le journal Afrique à la une. Le Soudan et la situation humanitaire critique à El Fasher. Et dans une heure, notre grande invité international. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin, vous recevez Ophélie Coelho, chercheuse indépendante associée au Centre Internet et Société.
Oui, on évoquait à l'instant le patron, le futur patron de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Avec Ophélie Coelho, nous parlerons d'Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX. Il rejoint l'équipe de Trump puisqu'il est nommé comme au ministère de l'efficacité gouvernementale. Musk doit déréguler, couper dans les budgets. Il promet déjà un classement des dépenses les plus stupides, ça promet. On va demander à notre invité si l'entrepreneur a les compétences pour mener cette mission. Quels sont ses objectifs personnels et ses objectifs en tant que patron ? Est-ce que Musk compte s'arrêter là, à cette mission ? l'administration et puis au-delà, puisqu'on parle d'administration, de technologie. Est-ce qu'on peut se passer des fonctionnaires et les remplacer dès maintenant par l'intelligence artificielle? Moi, je reviens en vrai et sans IA tout à l'heure.
Et c'est tant mieux. À tout à l'heure, Arnaud Pontus. 7h20, heure de Paris pour cet entretien avec Ophélie Coelho, chercheuse indépendante, également autrice du livre, je précise, Géopolitique du numérique. L'impérialisme à pas de géant, c'est publié aux éditions de l'Atelier. Vous connaissez forcément le Bhoutan pour son indice de bonheur intérieur brut utilisé pour mesurer le bien-être de la population. Ce matin, c'est d'un autre projet de ce royaume de l'Himalaya dont on va parler. Le Bhoutan veut construire une GMC, une ville pleine conscience, je vais y arriver, une ville de pleine conscience. Et pour ça, un appel de fonds auprès d'investisseurs étrangers vient d'être lancé. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Andréane.
Alors d'abord, qu'est-ce que c'est exactement une ville de pleine conscience?
Eh bien, c'est une ville qui sera inspirée de l'héritage spirituel bouddhiste. On prévoit d'y construire, par exemple, des centres de bien-être dédiés notamment à la méditation et à l'art de cultiver le moment présent. La ville compte attirer aussi des entreprises conscientes et durables, selon les éléments de langage, c'est-à-dire qui seront en mesure de respecter le mode de vie bhoutanais en adhérant au développement durable et équitable, et seront privilégiées les entreprises axées sur les biosciences, l'éducation et les projets énergétiques.
Et alors, en attendant qu'il soit sorti de terre, a priori dans une vingtaine d'années, quel visage aura ce nouveau centre urbain ?
D'après les plans révélés en décembre dernier par le roi Jigme, la ville s'étendra sur 2500 km², non loin de la ville de Gelepo, près de la frontière indienne. Le Bhoutan est au moins depuis les années 70 très attaché à la protection de sa riche biodiversité, de son environnement, composé à 70% de forêts, et cherche depuis deux nouveaux modèles qui allient développement économique, protection de l'environnement et enfin bien-être de sa population. La ville de pleine conscience a été précisément conçu, Andréane, dans cet objectif. Le projet ambitionne d'attirer 150 000 personnes dans les 7 à 10 prochaines années, jusqu'à 1 million une fois les travaux terminés. On y trouvera donc un aéroport international qui est déjà en phase de construction, des liaisons ferroviaires, un barrage hydroélectrique, une université. La marche et le vélo seront privilégiés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On y développera des activités communautaires et l'écotourisme. Tout le projet a été pensé dans un cadre harmonieux, intégrant des quartiers résidentiels au milieu d'une faune et d'une flore protégées. On fera en sorte, par exemple, de ne pas perturber les voies migratoires des éléphants. Autre particularité de la future ville, elle fera partie d'une région administrative spéciale, c'est-à-dire qu'elle aura ses propres règles et lois.
Et est-ce qu'il y aura des freins potentiels à la réalisation de ce projet ?
Alors, l'une des priorités de cette ville du futur sera de devenir un poumon économique durable et un pont interconnecté de développement entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Mais ce qui risque, Andréane, de freiner le projet, c'est la géographie du Bhoutan, car pour relier la future ville au reste du monde et ainsi renforcer les connexions régionales, un aéroport, ça ne suffira pas. Il faudra construire de nouvelles routes et des voies ferrées jusqu'à la frontière avec l'Inde. D'ailleurs, New Delhi s'est dit prêt à aider son partenaire financièrement. Enfin, on peut se demander si le Bhoutan réussira avec ce nouveau modèle urbain à infléchir une tendance inquiétante, l'exode massif, surtout vers l'Australie, de ces jeunes qui peinent à trouver du travail. Un chiffre, plus de 60 000 Bhoutanais ont quitté le pays depuis la fin du Covid.
Merci Yelena Tomic. Direction à présent la France, le sud, Nice et la Laverie, soit le nom du plus gros point de deal des Alpes-Maritimes. Mais la Laverie, c'est aussi tout un quartier qui se retrouve gangréné par ce trafic et cela donne une grande entraide entre habitants. Siam Spencer est journaliste, elle travaille d'ailleurs notamment pour RFI et elle publie aujourd'hui un livre sur la Laverie où elle a vécu 7 mois. Au micro de Frédéric Genot, elle revient d'abord sur les raisons de cette violence et toutes ces balles perdues.
Il y a des enjeux financiers très forts. Le point de deal, là, la Laverie, c'est entre 15 000 et 20 000 euros de recettes par jour, donc ce qui est quand même énorme. On est sur des ados la plupart du temps et qui en plus de ça sont consommateurs donc de cannabis. Alors c'est pas le cas partout, mais il y a de l'alcool et en fait la consommation des deux fait qu'on on se retrouve avec des jeunes camés ou des mineurs non accompagnés pareil qui sont dans des états seconds et qui peuvent avoir aussi des switches, des coups de folie et dans un climat de stress ambiant qui est assez fort parce qu'il y a justement des tensions entre clans rivaux et c'est là justement qu'on peut se retrouver avec des armes et avec un clan qui va débarquer tirer sur tout le monde ou des coups de couteau et c'est là que ça devient vraiment vraiment dangereux.
Vous racontez aussi comment au début vous mettez votre matelas par terre pour échapper à une balle perdue.
C'est ça, j'habitais au rez-de-chaussée et la première fois que je me réveille au moulin, il y a eu des tirs quasiment en face de chez moi, quoi, des tirs quasi sous la fenêtre. Et donc rapidement, ouais, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être à hauteur de tir, on sait jamais s'il y a une balle qui traverse le mur. Je me rapprochais du sol.
Les rapports avec la police sont-ils ceux que vous imaginiez ?
Non, c'est moins tendu que ce que je pensais. Je suis arrivée avec un petit peu des a priori. Je me suis dit, bon, ce serait pas étonnant qu'il y ait une bavure ou des choses comme ça. Alors, ça peut être tendu parce que les habitants, notamment les hommes, parlent beaucoup de contrôles trop fréquents et qui, eux, les mettent mal à l'aise, les agacent. Mais c'est moins tendu dans le sens où il y a des moments de discussion, en fait, vraiment entre les policiers, les jeunes d'une part, mais surtout les familles. Tout le monde cohabite, tout le monde sait que les policiers sont là, les dealers sont là, les habitants sont là. Et c'est un petit monde qui cohabite.
Mais en même temps, les policiers sont très pessimistes sur l'évolution de la situation et du trafic de drogue qui arrive dans toutes les villes.
Oui, complètement. On m'a plusieurs fois parlé d'une vague, en fait, qu'on peut pas arrêter et que les choses s'empirent, qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire. Et souvent, quand ils arrivent, c'est déjà qu'il est trop tard. Et que, ouais, ils se sentent finalement assez impuissants par rapport à ce trafic-là. Ils font ce qu'ils peuvent et leur mission, c'est d'être là pour 3-4 heures tous les jours et se dire, pendant ces 3-4 heures-là, il y a moins de risques qu'il y ait une balle perdue, il y a moins de risques qu'il y ait un jeune qui se fasse planter avec un poignard. Et ça peut être, sur ces 3 heures-là, un moment de répit pour les habitants qui, eux, pour le coup, ont rien demandé et au moulin sont très en colère et le disent à face découverte, ce qui n'est pas le cas de tous les cas.
Siam Spencer qui publie aujourd'hui La Laverie aux éditions Robert Laffont, entretien avec Frédéric Genot. Allez, un peu de musique avant le journal, c'est sur notre playlist RFI ce mois-ci. Manu Chao avec Letty, le titre Tout est basse.
Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas,
je ne viendrai jamais. Je ne viendrai jamais.
Cuando tú te vas,
je ne viendrai jamais.
Cuando tú te vas,
cantar pa' ti es clavarme pinas. Si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme pina.
L'amour la m'apaise à peine. Je viendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je viendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je viendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance. De la distance. Une chanson, les larmes coulent. Malgré le love, j'ai mis de la distance. De la distance.
Cuando tú te vas. Cuando tú te vas.
Vivir sin ti es salir corriendo. A por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti casamiento.
Non, ce n'est pas qu'une question d'amour. Tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri. Tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège. Non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi tout te va,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. L'amour là m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais,
je dois exaucer mes rêves.
Manu Chao et Lighty sur notre playlist ce mois-ci. C'est à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. À suivre l'information africaine dans une minute. Belle journée sur RFI.
Je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais,
je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale du diabète, mieux lutter contre cette épidémie mondiale.
Demain.
Émission Questions de femmes, fausses couches et postpartum.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles, Marjorie Bertha.
Connaissez-vous la figure du fou ? Ce bouffon présent dans toutes les cours du Moyen-Âge où il faisait rire les gens a énormément stimulé les artistes. Le musée du Louvre lui consacre une grande exposition que nous décrypte la commissaire Elisabeth Antoine Koenig.
Vous m'en direz des nouvelles. Du lundi au vendredi à partir de 15h10 TU sur RFI.